DW. Afrique 7 jours.
Heureux de vous retrouver pour cette rétrospective de l'actualité africaine de la semaine qui s'achève. Notre invité du jour est le blogueur ivoirien Frédéric Gorebi, en ligne depuis Abidjan. Il nous parlera de la star du coupé décalé, féru des réseaux sociaux. DJ Arafat, comme il s'agit de lui, est décédé lundi des suites d'un accident de moto, suscitant donc une grande émotion dans le pays. Et avant de prendre la direction d'Abidjan, nous allons d'abord faire un petit tour d'horizon de l'actualité africaine de la semaine. On commence avec la Guinée, où le gouvernement a annoncé la mise à disposition de 20 milliards de francs guinéens pour le début des travaux du procès du massacre du 28 septembre 2009. Cela fera 10 ans que plus d'une centaine de personnes étaient massacrées dans le plus grand stade de Conakry par des soldats favorables au chef de la junte au pouvoir à cette époque. Le capitaine Dadis Camara. Alpha Amadouba est un des avocats de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009.
Nous avons bon espoir que le procès sera bientôt organisé puisque l'instruction a déjà été clôturée. Aujourd'hui, il n'y a rien qui peut normalement empêcher la tenue du procès dans un très bref délai.
Au Rwanda, le gouvernement épinglé par une enquête du quotidien britannique Financial Times. Celui-ci accuse les autorités rwandaises d'avoir truqué leurs statistiques sur la pauvreté en 2015, à la veille du référendum qui a donné la possibilité au président Paul Kagame de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Les accusations portent notamment sur la période de 2011 à 2014. Écoutons l'explication de Yves Ekoué Amaizo, il est économiste et consultant auprès des institutions financières.
La gouvernance économique du Rwanda pêche par un élément fondamental, les inégalités. Il faut mettre en place un interventionnisme, non pas seulement économique, mais aussi dans le social. Ça n'a pas été fait, en tout cas pas suffisamment.
Au Burundi voisin, le ministère de la Santé publique a donné le coup d'envoi de la campagne de vaccination du personnel médical qui intervient en première ligne contre l'épidémie d'Ebola. Le pays a reçu des doses du vaccin contre Ebola qui offre une protection contre la souche dite zaïroise du virus et qui affecte actuellement la République démocratique du Congo. Tadi Ndikumana est ministre de la Santé publique. Il explique comment la prévention contre Ebola se met en place au Burundi.
Tous les hôpitaux des districts disposent des sites d'isolement pour pouvoir isoler en cas suspect. Et aussi, une très bonne chose, c'est qu'au Burundi, nous pouvons faire le diagnostic différencié, savoir si c'est en cas d'Ebola ou pas.
Il faut savoir qu'aucun cas d'Ebola n'a jusqu'ici été déclaré au Burundi. L'Organisation mondiale de la santé livre actuellement le matériel nécessaire afin de mener à bien la vaccination du personnel médical burundais. L'annonce de la mise au point d'un traitement efficace contre le virus Ebola en République démocratique du Congo devrait d'ailleurs encourager les malades d'Ebola à se rendre dans les centres de santé car la précocité de la prise en charge du patient est décisive pour ses chances de guérison. C'est ce que dit le docteur Sabou Moulangou, chercheur à l'Institut national de recherche biomédicale. Celui-ci rappelle toutefois que ces deux médicaments sont dans une phase expérimentale.
L'analyse est faite sur environ 500 personnes. Donc il y a plus ou moins encore 180 personnes pour lesquelles on doit collecter les données et puis analyser les données de l'ensemble et voir si ces chiffres se confirment, le niveau réel de protection.
Nous restons en République démocratique du Congo où, selon les conclusions du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, le GIEC, 1900 civils ont été tués et 330 autres enlevés entre juin 2017 et juin 2019. L'Institut météorologique de Karlsruhe en Allemagne, avec 16 autres institutions européennes et africaines, vient d'étudier la pollution de l'air en Afrique de l'Ouest. L'étude tire la sonnette d'alarme tout en donnant aussi des conseils pouvant être mis en place rapidement, car il n'y a pas que sur les artères routières qu'il y a pollution, nous explique le professeur Peter Knipertz. Il est de l'Institut de Karlsruhe en Allemagne.
Cela nous a un peu surpris de voir à quel point les endroits où les gens cuisinent sont pollués. Comme presque toutes les familles font à manger pour elles-mêmes tous les jours, et comme les enfants sont là aussi, c'est effrayant de voir que même les plus jeunes sont exposés à des pollutions considérables dès leur plus jeune âge.
Et puis, à l'occasion de la commémoration du débarquement de Provence, le président français Emmanuel Macron a appelé tous les maires français à honorer les combattants africains qui se sont sacrifiés pour défendre la France durant la Seconde Guerre mondiale. Cela fait 75 ans, en effet, que 450 000 soldats alliés, dont des milliers d'Africains, ont débarqué dans le sud de la France. Pour Pierre Bercis, président fondateur de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme, l'hommage de la France aux combattants africains n'a jusqu'à présent pas été suffisant.
Pas à la hauteur de l'engagement de nos frères africains, mais il vaut mieux une reconnaissance tardive que pas de reconnaissance du tout.
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi, je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale.
Vous êtes toujours sur la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Afrique 7 jours, on retrouve à présent Marco Wolter avec la rubrique Afropress qui a compilé les commentaires des éditorialistes allemands qui se sont penchés sur l'actualité sociopolitique en cours en ce moment sur le continent africain.
Voilà plus de 50 ans que l'approvisionnement en eau était le plus grand souci des habitants de Makueni, un comté qui se trouve à environ 200 km au sud de Nairobi. Désormais, un barrage permet de retenir l'eau d'une rivière et de remplir un lac artificiel qui profite à quelques 18 000 personnes. C'est grâce au gouverneur et grâce à nous-mêmes, explique Tabitha Mbiti, qui fait partie d'un comité de surveillance du lac. C'est tout le secret de la réussite du comté de Makueni. Les habitants ne sont pas seulement écoutés pour les projets de développement, ils sont aussi impliqués, nous dit la Tageszeitung. Alors qu'au Kenya, l'argent disparaît régulièrement dans les poches des politiques, des fonctionnaires et des donneurs d'ordre. La grande participation de la population aurait ainsi quasiment éliminé la corruption à Makueni. Voilà comment, raconte la TATS, la construction d'une maternité de 120 lits a coûté quasiment le même prix qu'un pont pour piétons passant au-dessus d'une autoroute à Nairobi. Depuis l'arrivée du nouveau gouverneur en 2013, au-delà du barrage et de la maternité, une usine de transformation de fruits et une nouvelle école ont vu le jour. Tous les projets sont supervisés par des comités d'habitants qui ont un droit de regard sur les dépenses et sans leur signature, aucune facture ne peut être honorée. Le journal conclut ainsi, Makueni est en train d'écrire l'histoire. On continue à parler de politique, cette fois au niveau national en Afrique du Sud, pour faire le bilan des 100 jours depuis la victoire de l'ANC aux élections générales de mai dernier. Et c'est la Frankfurter Allgemeine Zeitung qui dresse ce bilan. Cyril Ramaphosa avait lui aussi promis d'éradiquer la corruption, d'assainir les entreprises étatiques et de relancer les investissements. Mais au lieu de progrès, une mauvaise nouvelle économique vient chasser l'autre. La croissance est en berne, la dette explose, le taux de chômage a grimpé pour atteindre 29% de la population active. La crainte d'une mise sous tutelle financière internationale est de plus en plus présente. L'Afrique du Sud tombe dans une crise de plus en plus profonde.
Blogosphère.
Je le disais, notre invité du jour est le blogueur ivoirien Frédéric Gorebi. En ligne depuis Abidjan, il nous parle de la star du coupé décalé DJ Arafat, décédé lundi des suites d'un accident de moto survenu donc dans la capitale ivoirienne, suscitant une grande émotion dans son pays. Frédéric, bonjour.
Bonjour.
DJ Arafat aimait beaucoup les réseaux sociaux. Dans quelle mesure il était important pour lui de rester en contact avec ses fans sur les réseaux sociaux?
Il avait 2 300 000 abonnés sur sa page Facebook. Il avait 1 million de followers sur Twitter. Et Instagram, c'est quelqu'un qui fait partie des 3 personnalités les plus influentes de la Côte d'Ivoire. Après Alpha Blondy, Didier Drogba. Ses fans les appelaient les Chinois, la Chine populaire, parce qu'ils étaient nombreux, en référence au taux de démographie de la République populaire de la Chine. Donc il partageait son quotidien, il partageait tout ce qu'il faisait via les réseaux sociaux, et notamment via sa page Facebook, où il faisait des directs à profusion. Il plaçait tous ceux qui étaient ses alter ego, notamment Serge Benoît, Didier de Bordeaux et les autres acteurs du coupé de Cali, il les plaçait. C'était pour lui une façon d'être proche de ses followers-là. Donc les réseaux sociaux, il les a utilisés à bon escient, même si souvent il y a eu des dérapages. Les réseaux sociaux ont été un instrument, un outil important dans la promotion de sa carrière, de sa personnalité.
Alors, vous, en tant que blogueur, qu'est-ce que vous retenez de la mobilisation aujourd'hui autour des obsèques de DJ Arafat?
De mémoire des jeunes ivoiriens du haut de mes 40 ans, en dehors du Roger Pison Kassi, ex-animateur à la radio du jeu télévision ivoirienne, décédé le 20 janvier 1989, j'ai jamais vu autant de moi dans la société ivoirienne. J'ai jamais vu. Les gens ont pleuré du plus grand, plus petit, des femmes, des enfants, des vieillards, des jeunes hommes, des inconnus, des illustres, des moins connus. Tout le monde était vraiment désespéré, tout le monde était touché. Et c'était vraiment, c'était larmoyant, c'était pathétique. Les gens ne voulaient pas croire parce que Didi Arafat était très important. Et lui-même, je pense pas que de son vivant, il n'a jamais réalisé l'importance qu'il avait dans le cœur des Ivoiriens, dans la mémoire collective ivoirienne.
D'accord, merci beaucoup Frédéric. Je rappelle que vous êtes blogueur ivoirien et nous parlions de DJ Arafat, décédé donc des suites d'un accident de circulation. On va retenir de lui de bons souvenirs sur le continent africain où il a côtoyé beaucoup d'artistes, qu'ils soient francophones ou encore anglophones. Merci beaucoup Frédéric, je vous souhaite une excellente journée à Abidjan.
Ouais, merci beaucoup et bien les choses à la vie depuis la nuit.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Afrique 7 jours, c'est terminé pour ce dimanche. Rendez-vous dimanche prochain, même heure et même endroit, au micro Bob Barry. À très très vite.
Yes, I. Nous tous en mourra et on se retrouvera nous tous chez Dieu. Et chacun de nous sera jugé pour ses actes. Donc, faisons preuve de pardon et soyons francs et sincères envers nous-mêmes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Imaginez que notre Côte d'Ivoire sera...